Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation et de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur de France Culture. Aujourd'hui, l'avance, le retard en classe et le redoublement. Ce n'est pas volontaire, mais entre le faux scoop ce matin sur Europe 1, la fin du redoublement, et le vrai démenti ministériel, c'est bel et bien le sujet éducation du jour et nous allons le traiter en profondeur. Rue des Écoles tous les mercredis jusqu'à 16h, attachée de production Geneviève Méric, Alexandra Malka à la réalisation. À la technique, c'est Jean-Frédéric. Vous pouvez écouter cette émission en différé ou mieux vous abonner au podcast sur franceculture.fr. J'attends aussi vos commentaires sur le site ou en direct sur Twitter avec le hashtag RDE. Et grand amphi, c'est vers 15h50. La falsification des diplômes, c'est aussi un sujet d'actualité cette semaine, n'est-ce pas Marie-Caroline Missir?
Oui, et qui nous a largement occupés avec l'affaire Cambadélis la semaine dernière. On reviendra dessus avec mon invité Emmanuel Chomara, qui a créé une société de vérification de diplômes.
Grand amphi en partenariat avec l'étudiant.fr, à tout à l'heure Marie-Caroline. Et vers 15h40, nous allons retrouver Libby Cousteau, grand reporter à l'Express. De quoi vous parlez-nous, vous, cette semaine, Libby?
Des syndicats.
Allez.
France Culture, rue des Écoles.
Louise Touret.
Le redoublement est décidément une question d'actualité. L'OCDE vient de faire paraître une note pour dire tout le mal qu'il fallait en penser. Le nouveau Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, organise une conférence de consensus sur la question, conclusion en janvier. Une circulaire sur l'accompagnement pédagogique des élèves prône la limitation de cette pratique. Le texte est actuellement examiné par le Conseil d'État. Il devrait rentrer en vigueur en novembre. Et patatras, ce matin, nos confrères d'Europe 1 annoncent comme un scoop la fin du redoublement. Du coup, la ministre de l'Éducation publie un démenti dans la foulée, rappelant le texte de la dite circulaire, le caractère très exceptionnel d'une mesure qui doit être prise suite à un dialogue avec les familles, je cite, et dans des circonstances qui le justifient absolument. Ce qui laisse une certaine marge d'appréciation aux équipes enseignantes. Reste que cette pratique, qui coûte cher à la collectivité et donne peu de résultats, pose d'immenses questions. Comment mieux traiter les difficultés? Que faire du retard éventuel des élèves dans les apprentissages? Et d'ailleurs, comment pratique-t-on dans les pays qui ont banni le redoublement? Un questionnement que nous prolongerons par une réflexion sur l'avance et le retard perçus chez les élèves. On sait que le mois de naissance a une influence non négligeable sur la réussite des enfants durant toutes leurs études. La pratique du retard volontaire est même devenue une véritable stratégie scolaire aux États-Unis, où l'on appelle cela le redshirting. Étonnant, non, Jean-Rémy Girard?
Non, pas très étonnant, dans le sens où, effectivement, on essaye toujours d'avoir ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et si on pense que c'est ça qui va l'aider à réussir, ça ne me paraît pas aberrant qu'on tente. Hein.
Un secrétaire national du SNALC, donc pas facilement étonné. À vos côtés, Jean-Rémy Girard, Francesco Avisati. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'éducation et économiste à l'OCDE. Vous êtes donc l'auteur de la note dont je parlais, un focus PISA sur le redoublement et sur l'idée du bon timing en éducation. Julien Grenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris et directeur adjoint à l'Institut des politiques publiques. Et Guillaume Edfort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à M, le magazine Le Monde, et vous êtes une des premières à avoir parlé en France de cette pratique américaine qui consiste à retarder l'entrée des élèves dans la scolarité. Mais pour commencer, et sur le redoublement, eh bien, écoutons un élève qui a choisi de parler de son redoublement à lui.
Ah, le redoublement, cette période que j'ai moi-même subie l'année dernière. Alors, premièrement, t'as plus de potes et personne te connaît.
Le cul tout, tu connais pas.
Deuxièmement, t'as le droit aux phrases typiques du professeur toute l'année.
Bon, cette année, c'est très simple, hein. Vous êtes en première, maintenant on est là pour bosser, hein. Sinon, c'est très simple, vous allez redoubler. Comme lui, là-bas.
Bon, qui c'est qui va venir faire l'exercice au tableau, hein? Personne ne veut faire l'exercice au tableau? Bon, c'est très simple, je vais demander quelqu'un au pif. Tiens-toi, vu que t'as redoublé. Vu que t'as redoublé, t'auras plus de facilité que les autres. Hein. T'as déjà fait l'exercice. Allez, viens, bolos, viens. Deuxièmement, tu refais le même programme que l'année dernière. Et donc, peut-être les mêmes interros.
Wesh, mon pote. Tu copies pour le cours de géo? Déjà fait.
Il s'appelle Pierre Le Caillou, il est en terminale et apprenti humoriste. Il poste ses vidéos sur YouTube, c'est là que nous l'avons trouvé. Quelques bonnes questions dans ce petit sketch, Jean-Rémy Girard. Déjà sur l'aspect stigmatisant de cette pratique du redoublement.
Alors, je ne pense pas que le redoublement en soi, ce soit vraiment ce qui stigmatise. Ce qui stigmatise plus, c'est l'échec scolaire. C'est-à-dire qu'un élève qui est en échec scolaire dans sa classe, où ça se voit, etc., en soi, il n'est pas bien. J'allais dire qu'il redouble pas, c'est pas vraiment ça le problème. Et une fois encore, le redoublement, ça peut être perçu très très différemment hein, de ce qui est dans ce sketch. Parfois, ça peut même paraître assez valorisant aux yeux de l'élève, il est plus grand, etc. C'est très très variable suivant les établissements. Il y a des établissements, c'est plutôt, j'allais dire, les intellos qui se font stigmatiser. Il y en a d'autres, peut-être les redoublants. Il n'y a pas du tout de généralité à faire sur, j'allais dire, la figure du redoublant qui serait forcément comme ci, forcément comme ça. J'ai eu des élèves redoublants qui étaient très très bien intégrés dans leur classe, qui avaient plein de copains, il n'y avait aucun souci.
Merci de nous rassurer à leur sujet. Alors, peut-être avez-vous lu la note du CNESCO, hein, le Conseil d'évaluation des politiques scolaire, qui dit quand même que le redoublement, c'est utilisé, et c'est ce que dit cet élève, Pierre Le Caillou, comme une menace.
Oui, c'est utilisé comme une menace, parce qu'on n'a rien d'autre à un moment comme moyen d'essayer de faire travailler les élèves. On essaye de trouver des solutions pour faire travailler les élèves, et effectivement, c'est pas forcément la bonne idée, hein, d'ailleurs, mais on peut se raccrocher à ça. Alors, c'est une menace qui est de moins en moins crédible hein, aujourd'hui. C'est-à-dire que les élèves, ils croient de moins en moins qu'on va les faire redoubler parce qu'ils le voient. Hein. D'ailleurs, les taux de redoublement en France, ils ont dramatiquement chuté, ou enfin drastiquement chuté.
Oui, dramatiquement, je ne sais pas, mais voilà. Effectivement, mais, le redoublement, une chute sur les 10 dernières années enregistrées. Bah, peut-être on peut faire un petit cadrage chiffré avec vous, Francesco Avisati. Que dit l'OCDE, non seulement du redoublement en France, mais du redoublement dans les pays de l'OCDE la France est assez mal placée, enfin tout dépend si on est pour ou contre le redoublement.
Oui, tout d'abord, donc la France effectivement elle est un peu championne du redoublement, mais il est vrai qu'il a reculé de plus que 10%, 10 points de pourcentage entre 2003 et 2012 si on mesure à 15 ans les élèves qui ont redoublé au moins une fois au cours de leur scolarité. Donc en France en 2012 on était à 28% des élèves ayant redoublé une classe de primaire, collège ou la toute première classe de lycée à 15 ans. Contre plus de 37% 10 ans auparavant. Nous, on regarde les choses plutôt en moyenne, en fait. On ne dit pas qu'individuellement, il puisse avoir des effets parfois positifs, parfois négatifs pour certains élèves. Il y a même qui disent que ça aide plutôt ceux qui ne redoublent pas, justement, ça motive les autres. Alors, c'est un peu troublant de dire on va faire redoubler certains pour aider les autres, parce qu'on va instrumentaliser, en fin de compte, ces élèves qui redoublent. Quand
c'est
on regarde les choses en moyenne...
En parlant de menaces, hein, oui.
Voilà. Quand on regarde en moyenne ce qui se passe, c'est effectivement les systèmes dans lesquels on redouble beaucoup, ils n'ont certainement pas des meilleurs résultats que les systèmes dans lesquels le redoublement n'existe pas ou est très exceptionnel. Et par contre, ce qui est troublant, justement, c'est que le redoublement est souvent associé à des plus fortes disparités de résultats, inégalités face à l'école. Donc les élèves les plus défavorisés, ils sont en général désavantagés par cette pratique.
C'est en substance ce que dit la note de l'OCDE. Le redoublement, c'est une pratique socialement injuste, c'est ce que vous décrivez, mais est-ce que c'est particulier à la France, ça ?
Ce qu'on essaye de voir dans cette note, c'est pourquoi le redoublement peut être associé justement à des plus fortes inégalités scolaires. Alors, ce dont on se rend compte, justement, c'est qu'à parité de résultats scolaires, on a effectivement, en France, comme dans la plupart des pays où l'on redouble beaucoup, plus de chances d'avoir redoublé une classe quand on est issu du quart de milieu, du 25% des élèves les plus défavorisés. Donc en France, parmi ces 25% d'élèves, on a 47% d'élèves qui ont redoublé au moins une classe, c'est-à-dire un élève sur deux dans les 25% des élèves les plus défavorisés a redoublé au moins une fois au cours de sa scolarité. Quand on sait que ça aide pas beaucoup, on peut imaginer voilà, pourquoi les inégalités s'en trouvent renforcées.
Jean-Rémy Girard, vous êtes comme tout le monde contre les inégalités sociales à l'école. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres ?
Qu'en fait, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que le redoublement montre que notre système, il y a des inégalités sociales dedans. Ce n'est pas le redoublement qui les crée du tout ici. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et les études comme PISA d'ailleurs hein, le montrent, que notre système, il y a de fortes inégalités sociales. Et ça, c'est très vrai. Mais une fois encore, le redoublement, c'est le moyen qu'on a en France, et j'allais malheureusement dire c'est le seul moyen qu'on a en France institutionnellement pour se dire on va essayer de résoudre les inégalités. On n'a rien d'autre, c'est-à-dire nous on a baissé nos taux de redoublement aujourd'hui.
Attendez, Jean-Rémy Girard, il y a des moyens en classe, de la manière dont on fait la classe, dont on intervient auprès des élèves pour pallier aux difficultés. Le seul moyen, c'est pas à la fin de leur dire, un enseignant ne peut pas dire ça, que le seul moyen c'est de dire à la fin de l'année, on redouble.
Non, mais ce que je dis justement, c'est qu'aujourd'hui, la seule alternative qui existe dans le système, c'est redoubler ou passer dans la classe supérieure. Et qu'on est dans la classe tout le temps à 25, 26, 30, 31 élèves ou un G cette année, avec l'enseignant qui fait ce qu'il peut, qui fait au mieux avec sa pédagogie, avec la classe qu'il a en face de lui, mais que les pays qui ne redoublent pas, un certain nombre d'entre eux, effectivement, ont mis en place d'autres choses que le redoublement. Ils ont mis en place des groupes à petits effectifs, ils ont mis en place des enseignants supplémentaires, ils ont mis en place des choses qui coûtent aussi d'argent.
L'aide personnalisée aux élèves, ça ne suffit pas du tout.
Mais ce qu'on a en France, ça ne suffit pas du tout. Bien entendu, ça ne suffit pas du tout.
Et vous dénoncez dans vos communiqués, enfin vous et le SNALC, une logique comptable. Alors moi, j'ai vu plein de chiffres. Le CNESCO avance 1,6 milliard d'euros comme coût du redoublement. J'ai vu aussi 2,5 milliards d'euros. Enfin, tout ça me semble énormissime. Francesco Visati, que dit l'OCDE en termes de coûts de cette pratique en France?
Donc nous essayons d'évaluer les coûts et effectivement le premier coût c'est le coût d'une année supplémentaire pour un écolier, pour un collégien ou un lycéen et ça s'évalue autour de entre 6 000 et 10 000 euros disons par élève. Rien que le coût de la scolarité d'une année supplémentaire passée dans la scolarité. Et ensuite, il faut ajouter à cela le coût d'une éventuelle stigmatisation, y compris dans l'insertion sur le marché du travail, d'une orientation peut-être plus négative que celle qui aurait pu, mais qui sont moins certains. En tout cas, rien qu'en additionnant les coûts certains, c'est-à-dire il faut des profs en fait, pour enseigner à ces élèves qui redoublent, ça empêche de faire des classes plus petites, ça empêche de faire des plus petits effectifs, ça empêche de mettre en place tout un tas de dispositifs. Voilà, nous on ne dit pas qu'il faut supprimer le redoublement pour que cet argent revienne aux citoyens, mais il faut le laisser dans l'école pour remplacer le redoublement par des dispositifs plus efficaces.
Alors ces dispositifs, quels peuvent-ils être? Après tout, Jean-Rémy Girard, vous pourriez vous réjouir. Tous ces milliards mis à disposition de l'école éventuellement, ou ce milliard et demi disons, pour faire de l'aide personnalisée aux élèves, ou peut-être d'autres dispositifs, lesquels imaginez-vous?
Alors ce qu'il faut voir déjà, c'est que toute la baisse des taux de redoublement qu'on a déjà eu en France, a priori ça nous a donc déjà fait gagner énormément d'argent. J'en ai pas vu le premier centime mis en place dans un dispositif pour venir en aide aux élèves en difficulté. Alors qu'on me dise « Ah mais maintenant on va le faire », j'y crois pas. Mettons déjà en place les dispositifs, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, des dispositifs efficaces et dans ces cas-là, de même, ils feront baisser le taux de redoublement. C'est pas en faisant d'abord baisser par des pratiques institutionnelles en disant « On va faire baisser le taux de redoublement, vous allez arrêter de faire redoubler et on va avoir de l'argent et on va vous mettre, promis, on va vous mettre des choses en place ». Ça fait 30 ans qu'on les attend, les choses en place. On ne les a pas vues venir.
Mais la réforme de l'éducation prioritaire, pour donner un exemple, ça ne vous convient pas non plus? Plus de moyens pour certains établissements?
Mais alors, ce sont toujours les mêmes moyens qu'on distribue différemment. Hein. C'est-à-dire que des réformes de l'éducation prioritaire, on doit en être à 3 ou 4. Hein. Voilà, on en a toujours des ZEP, alors maintenant des REP. Enfin, c'est toujours à peu près d'ailleurs les mêmes établissements.
Réseau d'éducation prioritaire.
Voilà. Pardon, excusez-moi. Et effectivement, c'est finalement toujours les mêmes moyens qui sont mis en place. On n'en a pas vraiment créé beaucoup, hein, des moyens. Ce que disait monsieur était très intéressant. Il disait que effectivement, le redoublement, ça faisait que on faisait des classes plus grosses, etc. Ben, je vais vous dire ce qui se passe sur le terrain. On nous demande aujourd'hui de faire redoubler tant d'élèves à tel niveau, parce qu'au-delà, il va falloir créer une nouvelle classe et qu'on ne veut pas le faire. Donc, c'est-à-dire, là, on a tant d'élèves qui vont passer l'année prochaine en cinquième. Donc, des cinquièmes, vous ne pouvez pas en faire redoubler plus de deux. Si vous en faites redoubler 4, on va être obligé de créer une nouvelle classe, ça va être horrible. Parce qu'il va falloir des moyens pour créer une nouvelle classe et ça va être terrible, les élèves seront à plus petits effectifs. C'est ça qui se passe. Hein. Nous, on n'a plus le droit, j'allais dire, de faire redoubler plus de tant d'élèves. Alors ensuite, on choisit, bon allez, on va prendre celui-là et celui-là. Et puis voilà, les autres...
Rassurez-nous, vous ne choisissez pas au hasard.
Non, on ne choisit pas au hasard, mais c'est-à-dire, si on pense qu'il y a 5 élèves pour lesquels le redoublement serait bénéfique, eh ben on pourra quand même en faire redoubler que deux. Voilà.
Bon, si on ne redouble pas dans d'autres pays, en Norvège, si j'ai bien lu la note de l'OCDE, il n'y a pas de redoublement. Comment pratique-t-on, Francesco Avisati?
On essaie de renforcer le suivi des élèves au niveau individualisé au cours de l'année scolaire, en fait, et de C'est des choses qu'on fait en partie aussi en France, de travailler avec les familles. Et en fait, ce qu'on dénonce dans cette note, c'est en partie que ces dispositifs d'accompagnement, ils sont plus souvent employés pour des élèves plus favorisés, entre autres parce qu'ils demandent parfois la participation des familles que par des élèves plus défavorisés. Donc dans ces pays où on ne redouble pas du tout, on essaye on fait l'effort de mettre en place des dispositifs de suivi et de renforcement de l'accompagnement pédagogique de l'élève au cours de l'année par du travail en petit groupe l'après-midi. Donc, par exemple, en Finlande, c'est des pratiques pédagogiques où l'enseignant adapte son cours, personnalise son cours au niveau des élèves. Aux Pays-Bas, c'est plutôt du soutien scolaire, les Pays-Bas étant un pays où on redouble quand même encore beaucoup. Alors, je parle de mon pays, qui n'est pas forcément l'Italie, qui n'est pas forcément un pays qui
a des
brillants résultats, mais où le redoublement, par exemple, au niveau primaire, n'existe pas du tout. Là, on a une particularité, c'est que les élèves ils restent dans la même classe pendant 5 ans au cours du primaire, avec les mêmes enseignants en général. Donc, l'enseignant lui-même, il prend en charge un suivi sur plusieurs années pour essayer de combler les lacunes plutôt que de passer les élèves en difficulté à un autre enseignant ou de les retenir dans le niveau où ils sont. Donc, c'est par du suivi plus adapté et personnalisé que l'on lutte contre le redoublement.
On a bien compris. Donc un suivi qui existe en France, mais à trop petite échelle, d'après vous, Jean-Rémy Girard. On va poser la question autrement. Qu'est-ce que ça pourrait être qu'un redoublement réussi ?
Un redoublement réussi, ça peut être quand un élève a eu un coup de mou. Ça, c'est quelque chose qui arrive pour des raisons parfois qui ne sont pas du tout scolaires. Et là, dans ces cas-là, le redoublement, c'est une vraie deuxième chance. C'est-à-dire, il a décroché à un moment, il n'était plus avec nous, hein, quelque part. Et dans ces cas-là, ça peut marcher. Maintenant, ce qui pourrait être mieux que le redoublement, nous, c'est ce qu'on propose au SNALC, par exemple, au collège, c'est de dire que les élèves, ils n'ont pas tous le même rythme d'apprentissage et que ce que certains élèves peuvent faire en 2 ans, d'autres ont peut-être besoin de 3 ans pour le faire, mais pas dans le sens où on va répéter une deuxième fois exactement la même chose, faire une deuxième, cinquième exactement pareil que la première, mais étaler le contenu et la progressivité de l'apprentissage.
Une vraie logique de cycle, comme celle qui est mise à l'œuvre, mais non, enfin, celle qui est écrite dans les programmes de l'éducation nationale, cycle 1, cycle 2, cycle 3, et ensuite, enfin, ça c'est pour l'école primaire, où en fait, on mesure les apprentissages, comme savoir apprendre à lire, par exemple, c'est à la fin du cycle 2, donc du cycle 1, pardon, à la fin du CE1.
Sauf que le problème dans la logique des cycles, c'est que tout le monde est censé partir du même point de départ, arriver au même point d'arrivée dans le même temps. Donc en fait, finalement, on n'a pas du tout différencié à l'intérieur du cycle. Que le cycle, ce soit CP ou CPCE1 ou CPCE1, CE2, à l'arrivée du cycle, on est censé avoir fait l'ensemble du programme du cycle. Nous, ce qu'on propose, c'est que s'il y en a qui ont besoin de 2 ans pour atteindre tel niveau et d'autres qui ont besoin de 3 ans, c'est ça qu'il va falloir mettre en place. On propose ça déjà sur certaines matières, au collège, en français, en mathématiques, en LV1. Et ça nous paraît une véritable alternative au redoublement. Plutôt que de refaire une deuxième fois la même chose, si on prenait plus de temps pour arriver à l'objectif poursuivi.
Des positions assez pédagogistes, de mon point de vue, mais bon. Jean-Rémy Girard, est-ce que le SNALC est prêt à déposer des recours auprès des tribunaux administratifs ? Enfin, c'est ce que vous avez dit. Si cette circulaire rendant le redoublement extrêmement exceptionnel était publiée en l'état après examen du Conseil constitutionnel.
Alors, on va étudier la dernière rédaction du texte, un décret, je crois d'ailleurs, pas une circulaire. Mais on va étudier la dernière rédaction de ce texte. La rédaction qui nous avait été proposée en juillet dernier au Conseil supérieur de l'éducation, d'après notre lecture, elle était vraiment en contradiction avec l'article de loi. Donc effectivement, si on est toujours dans ce cas-là, on va consulter un avocat, de toute façon, là-dessus, ce n'est pas moi qui vais dire le droit sur ce sujet-là. Et effectivement, si on juge que c'est fondé, on le fera.
Angel,
écoutez Rue des Écoles sur France Culture. On débat de la question du redoublement. Faut-il le bannir de l'école ? Et en même temps, cette question du redoublement, elle en masque une autre qu'on n'arrive peut-être pas à se poser en France. La question de la maturité des élèves, de ce que cette maturité peut les aider dans leur scolarité. Une question d'actualité aux États-Unis.
It's called red shirting, holding your five-year-old back from kindergarten till he's six, so he'll be among the oldest and smartest kids in class. Parents of a five-year-old with a late birthday despair that little Johnny will forever be a failure.
Être le plus vieux et le plus intelligent élève de sa classe, est-ce que ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter à son enfant ? On entendait un extrait du célèbre magazine 60 Minutes, diffusé en 2012 et consacré à cette pratique du redshirting. Guillaume Edfort, c'est par vous que j'en ai entendu parler pour la première fois en France. Vous y aviez consacré un article. Expliquez-nous ce que c'est.
Mais en fait, c'est une mode qui s'est développée il y a quelques années aux États-Unis après le succès d'un livre de Malcolm Gladwell qui reprenait une étude canadienne qui montrait que dans les équipes de hockey de compétition, il y avait une majorité de très bons joueurs qui étaient nés dans les premiers mois de l'année. Et ce qu'il expliquait, c'était que quand on était né ça voulait dire quelques mois de plus, ça pouvait dire quelques centimètres en plus, ce qui fait pas vraiment une grande différence sportive, mais qui va faire que l'entraîneur, il va faire appel à vous un petit peu plus souvent, il va vous donner un peu plus souvent l'occasion de pratiquer. Et ce qui était un petit avantage au début, finalement, par la pratique, va devenir un grand avantage. Et l'argument, c'est que finalement, en classe, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on le voit même en France avec des programmes de crèche type Parler Bambin, c'est qu'on reconnaît maintenant que l'enfant qui parle un peu plus, qui est un peu plus grand que les autres, qui est un peu plus sage, eh ben on va s'adresser à lui un peu plus souvent qu'aux autres. Il va être un peu plus souvent un médiateur vis-à-vis des autres enfants. Donc finalement, le petit avantage de début va se creuser. Et comme justement aux États-Unis, on ne peut pas redoubler, du coup, les parents s'arrangent maintenant. Donc à l'époque où quand on arrive vers la fin de l'année scolaire en France, les parents vont voir les instituteurs en disant « Non, mais j'ai l'impression qu'il a quand même un peu des facilités. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il sorte une classe ?» Les États-Unis, c'est l'inverse. Les mères vont voir les directions d'école. Alors, elles ne disent pas « Mon enfant est débile », parce que quand même. Mais elles disent « He's not ready ». Il n'est pas vraiment prêt. Donc, en utilisant les arguments, la maturité, la sociabilité. On s'aperçoit aussi que donc, le fait de faire démarrer ses enfants plus tard, donc, qui était un truc... De foyers éduqués, de foyers aisés. Ça concerne aussi beaucoup plus souvent les garçons, parce que derrière ça, je crois qu'il y a aussi l'idée que d'abord, il y a toutes ces bourses qui sont accordées
pour le sport.
Donc il y a cette idée-là. Et puis je crois qu'en fait, en creux, il y a aussi l'idée que les parents, surtout les pères, ont pas envie que leur fils, s'il est né en fin d'année, soit le plus petit de la classe, parce que être un garçon, être grand, c'est bien dans une classe. Pour une fille, être la plus grande de la classe, bof, quoi. Donc, je crois que... Bon, et puis, je pense qu'il y a aussi la question de... que l'école est quand même un peu plus faite pour les filles, dans le sens où les questions de suractivité...
Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler de ça également.
Le redshirting, grosso modo, c'est deux tiers de garçons, un tiers de filles. Donc, j'essaie d'expliquer.
Mais la question du genre, c'est toujours très intéressant. À l'école, Guillaume Edfort, vous avez raison. Julien Grenet, cet avantage primitif qui se transforme en avantage cumulé... dont on parlait pour les États-Unis, est-ce que c'est ce qu'on retrouve aussi en étudiant les écoliers français ?
Absolument, on le retrouve dans tous les pays sur lesquels on dispose de données scolaires de bonne qualité. En France, il y a clairement une pénalité à être né en fin d'année. Et c'est une pénalité quand même assez importante dans les petites classes. Pour se donner une idée, en CP, être né en décembre, sur une classe de 30, ça fait perdre à peu près 8 places.
Si on classait les élèves sur les acquis
mesurés par ces tests. Et ces effets, bon, ils sont très forts à l'entrée en primaire, ils s'atténuent au cours du temps, mais contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, ils ne disparaissent pas à la fin du primaire. C'est-à-dire au collège, on observe encore un écart qui est plus faible, mais enfin qui est significatif, et ça jusqu'à la fin du lycée. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que bon, ces effets sont quand même de mieux en mieux connus en France, mais pour autant, on n'observe pas du tout de pratique de redshirting à l'américaine, on voit plutôt l'inverse. beaucoup de parents des enfants nés en janvier décident de les inscrire plus tôt pour aller plus vite. Ce qui, au vu de ces résultats, paraît comme une pratique peu rationnelle, en fait. Parce qu'on va faire que l'élève va être le plus jeune dans la classe et va être pénalisé, surtout en primaire.
Mais moi, je trouve que en France, on commence à voir un peu apparaître ça au moment de seconde première, quand on a certains mon lycée qui disent bon, bah, on vous le prend, mais vous redoublez, avec l'idée que, comme ça, il va faire une bonne première, enfin, avec l'idée de gratter un petit avantage
c'est,
comme ça.
C'est quoi. Le redoublement stratégique, vous connaissez bien ça, Jean-Rémy Girard.
Oui, c'est le redoublement d'orientation, on va dire. Ça existe même chez nous, jusqu'en classe préparatoire, où on redouble pour essayer d'avoir une meilleure école après.
Mais Julien Grenet parlait de cette passion que nous avons pour l'avance, la précocité, le saut de classe. Allez, on a voulu vous faire écouter quelques petits reportages, extraits de reportages avec Alexandra Malka, écoutez.
J'ai 14 ans, je suis en section S, j'ai passé mon bac cette année et j'ai 4 ans d'avance sur les élèves de ma classe qui ont 18 ans.
À 5 ans et demi, Victor aurait pu entrer au collège.
Avec un QI de 144, Sacha est un enfant précoce. Au cours de sa scolarité, il a sauté 4 classes.
Et sur les bancs, il y aura une candidate un peu particulière puisqu'elle n'a que 14 ans.
Il a tout juste 15 ans et est cette année le plus jeune candidat de notre académie. Visiblement, Clément n'était pas stressé par cette première épreuve.
Bien, je me sens à l'aise, j'ai pas de stress, pas d'appréhension. Je me dis que je suis prêt et je pense que ça va le faire.
Ça va le faire à 14 ans, des dizaines et des dizaines de reportages sur ces 6 jeunes bacheliers qui nous fascinent. Si on tape redoublement, je peux vous dire, on ne trouve pas beaucoup de reportages diffusés à la télévision française. Julien Grenet, vous en parliez. Il y a une préférence parentale typique française pour la précocité ?
En tout cas, c'est vrai que ce genre d'exemple conduit les parents à faire des choix qui ne sont pas forcément les meilleurs pour leurs enfants. C'est-à-dire typiquement, parce qu'on pense que son enfant est un génie, on va vouloir l'inscrire plutôt à l'école, alors qu'en réalité, il va être le plus jeune dans sa classe. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien, mais en moyenne, on observe bien quand même que ça a des effets assez délétères sur les trajectoires scolaires. Et alors, un chiffre qui est quand même très parlant, c'est la comparaison des taux de redoublement. Quand on est né en décembre, à l'entrée en 6e, on a redoublé 2 fois plus que quand on est né en janvier. Donc, par exemple, sur les données que j'avais utilisées, on avait 30% d'élèves nés en décembre qui ont redoublé au cours du primaire contre 15% des enfants nés en janvier. Donc, c'est un écart considérable. Et vous parliez du fait que ces effets se fossilisent, perdurent en France peut-être plus qu'ailleurs. Ça s'explique assez bien. C'est que le redoublement, c'est un des critères qui est pris en compte pour orienter les élèves après la 3e. C'est-à-dire que les élèves nés en décembre ou en fin d'année ont plus redoublé. Et à note égale, le redoublement, le fait d'être en retard, c'est un signal parfois apprécié négativement et on va les envoyer davantage dans la voie professionnelle. Donc c'est quelque chose qui a des effets, alors pas énormes évidemment, mais à long terme sur les salaires, il y a des petites différences.
Oui, vous le relevez, alors
c'est
un écart de 1,5%.
C'est quand même marginal, c'est 1,5% pour les hommes seulement et puis ça représente quand même pas énormément. C'est pour le salaire moyen, c'est 200 euros par an. Bon. Mais en termes de vécu des individus à l'école, ça peut être plus dommageable parce que avoir redoublé, ça a quand même des effets stigmatisants potentiellement pour certains, peut-être pas pour tous, mais en moyenne. Et du coup, en tout cas, faire redoubler les élèves parce qu'ils sont nés en décembre plutôt qu'en janvier, c'est sans doute pas une bonne pratique. Elle invite à réfléchir à cette forme un peu d'injustice du redoublement qui est différencié selon le mois de naissance.
Dans ce culte de la précocité qu'on a en France, il n'y avait pas aussi un moment où pour les écoles d'ingénieurs, les candidats avaient des points en plus quand ils avaient un an d'avance. Donc ça dit la même chose.
Merci de nous le rappeler. Je ne m'en étais pas souvenue en préparant l'émission. C'est aussi quelque chose que j'avais entendu. On peut se poser aussi des questions pédagogiques sur la manière dont on enseigne aux classes. Parce que finalement, s'il y a un avantage pour ceux qui sont nés en début d'année, c'est que l'enseignement du professeur, il se fait en direction des meilleurs. Jean-Rémy Girard, ça pose quand même une belle question.
Ça pose une vraie question pédagogique, ça, on est d'accord. La question, c'est que l'enseignement du professeur, il doit se faire envers toute la classe, dans toute sa diversité. Et en soi, c'est très compliqué. J'allais dire, c'est de plus en plus compliqué. Ce que les collègues nous remontent, c'est que c'est de plus en plus dur, en fait, de faire cours à ces élèves-là, en même temps qu'ils sont parfois très, très différents sur l'échelle de niveau, de résultats. Et des classes mais hétérogènes, c'est pas le problème d'une légère hétérogénéité. Il y en a un peu meilleurs, un peu moins bons, etc. C'est que parfois, on se retrouve... On ne peut pas parler à toute la classe en même temps et c'est très très difficile de trouver des pratiques.
On ne peut pas ou on ne sait pas parce qu'on n'a pas été formé pour le faire.
Alors, je crois qu'il y a des moments où on ne peut pas. Il y a des moments où quand on se retrouve en sixième avec des élèves qui peinent à déchiffrer, là on ne va pas pouvoir, dans une classe entière, leur consacrer le temps qu'il faut pour les faire revenir d'où ils sont. Et là, c'est là où il faudrait mettre en place ce dont on parlait, nos petits groupes de soutien, nos accompagnements, mais nos vrais accompagnements, où il faudrait réfléchir à ce qui s'est passé avant, éventuellement. Mais en tous les cas, il y a un moment, vraiment, on ne peut pas. Peut-être que la formation pourrait être meilleure. Ça, c'est un grand classique de l'éducation nationale. On va faire de la formation. Quand on voit la qualité de la formation, souvent, on est un peu déçu. Il y a un moment où on met les enseignants dans des conditions qui font qu'il y a un moment, une catégorie d'élèves, ils vont échouer. Et on sait déjà, ils vont échouer avec certains élèves. Alors, soit ils abandonnent certains, soit ils abandonnent d'autres.
Noir constat sur cette question de la pédagogie différenciée, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, Julien Grenet.
Alors, il y a des solutions quand même pratiques qui ne coûtent pas forcément très cher à mettre en œuvre et qui existent déjà. Par exemple, en maternelle, souvent les classes sont dédoublées et les élèves regroupés, par exemple, par trimestre de naissance. Par exemple, mon fils est à la maternelle en petite section. Il est dans une classe, les enfants nés entre juillet et décembre, et puis l'autre classe, c'est janvier-juin. Ça permet quand même, ça permet à l'enseignant d'adapter davantage la progression des apprentissages aux élèves pour réduire les écarts de maturité qu'il peut y avoir, par exemple, en maternelle. Le problème, c'est que, par exemple, à l'école primaire, on est beaucoup moins conscient de ces effets d'âge relatifs qui sont quand même assez forts. Et quand c'est possible, c'est un dispositif envisageable, quand il y a suffisamment de classes, de regrouper en partie les élèves par âge. Alors, une autre solution un peu plus radicale a été envisagée au Royaume-Uni en disant, bon, c'est injuste de pénaliser les élèves juste parce qu'ils passent un test à des âges différents alors qu'ils sont dans la même classe. Donc, pourquoi ne pas mettre en place un coefficient correcteur, c'est-à-dire qu'on redresse les notes des élèves en fonction de leur mois de naissance pour gommer cette différence qui est juste liée à la maturité relative des élèves et avec, pas forcément pour objectif de le rendre explicite par rapport aux élèves, mais au moins pour faciliter pour l'enseignant la prise de conscience de ces effets et de dire, peut-être, on va essayer d'éviter de faire redoubler un élève juste parce qu'il est né en décembre et avec quelques mois de plus, il aurait eu le même niveau que les autres.
Un pragmatisme tout à fait anglo-saxon. Francesco Avisati, sur cette pédagogie différenciée, j'y tiens. Est-ce qu'elle est plus utilisée, je le sais, dans d'autres pays? Est-ce que c'est ça aussi qui permet de lisser un peu les résultats des élèves, qu'ils soient nés en début ou en fin d'année?
Alors oui, c'est difficile de voir ces effets dans les enquêtes internationales, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ça permet de réduire souvent les inégalités des résultats au sein des systèmes scolaires. Donc les pays dans lesquels on a plus l'idée justement d'une pédagogie adaptée, différenciée, ont tendance à avoir des écarts moins forts entre les bons et les mauvais élèves et encore plus, moins liés à l'origine sociale des élèves.
Vous parlez de quel pays
Donc c'est,
la Finlande, j'imagine.
Oui, on parle évidemment de la Finlande. Et on parle... Alors dans d'autres pays où on essaye par contre, là, d'adapter le niveau en orientant dans des filières ou en créant des différences entre les écoles, là, par contre, ça part complètement dans l'autre direction. Donc, il y a des inégalités très fortes quand on essaye de créer des groupes plus homogènes en orientant vers des filières en jeune âge ou comme en Allemagne, comme en Belgique un peu plus tard. Et aux Pays-Bas, il y a beaucoup de différences du niveau entre les écoles. Donc, il y a une pédagogie différenciée, mais entre les écoles. Et ça, c'est plutôt nuisible.
D'accord. Donc, la pédagogie différenciée, c'est à l'intérieur de la classe, de préférence, si je vous suis bien, Francesco Avisati. Mais vous parliez du regard qu'on a sur les élèves. Je voulais revenir un peu sur ce sujet avec vous, Guillemette Faure. Tout à l'heure, vous parliez de la sociabilité des enfants, de leur qualité éventuellement sportive, des points sur lesquels on n'a pas vraiment l'habitude d'insister en France. C'est vraiment ça la différence avec l'école à l'américaine. C'est une école qui voit plus l'enfant dans sa globalité. Puis après, Jean-Rémy Girard me corrigera.
Non, là, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment des stratégies de parents. C'est vrai que au-delà des questions de redoublement, par exemple, les Américains ont aussi montré que les enfants les plus jeunes d'une classe étaient aussi les plus susceptibles d'être diagnostiqués hyperactifs. Donc c'est simplement qu'on oublie qu'un enfant a son âge. Quand on dirait qu'il ne tient pas en place, effectivement, quand on a dans une classe d'enfants de 5 ans, celui qui a 10 mois de moins, il sera peut-être moins facilement en place.
Jean-Rémy Girard.
Oui, je voulais quand même dire de faire assez attention à ce qu'on essaye d'interpréter sur ces comparaisons internationales. en réalité, le redoublement ou d'autres choses d'ailleurs, on n'a pas de véritable corrélation qu'on pourrait établir hein, sur les pays qui font plus redoubler sont plus en échec. En fait, cette corrélation, elle n'existe pas. Si on regarde l'ensemble des pays de l'OCDE sur PISA, on ne l'a pas. On n'a pas de corrélation scientifique.
Un pays oui, qui mais ce fait, qu'on oui, a comme mais, corrélation exemple, scientifique, c'est qu'il n'y a pas d'effet du redoublement et que ça, mais ça, ça alors, se mais, chiffre mais
une,
en milliards.
Non, mais une fois encore, c'est que dans les pays qui font par doublé, il y en a qui mettent en place des choses qui se chiffrent elles aussi en milliards et qui sont autre chose que le redoublement. Alors voilà, on consacre aussi beaucoup, voire plus d'argent. Un pays qui ne fait pas redoubler, qui est la Suède, qui a un taux de redoublement de zéro, c'est le pays qui s'est le plus cassé la figure dans les classements PISA. Hein, la Suède, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, l'école suédoise, c'est une catastrophe. Donc, il faut faire très, très attention, alors que l'Allemagne, avec son système de filière, bah, finalement, ça marche assez bien. Hein. Il faut faire très, très attention de ne pas faire de généralité.
Parce qu'ils ont aussi mis en place l'école toute la journée, comme en France, suivant notre exemple.
Voilà, bah, finalement, donc, peut-être que notre système n'est pas si mal.
Mais il y a plein de paramètres. Julien Grenet, vous vouliez ajouter
Non, parce qu'effectivement, sur cette question du redoublement... Le fait qu'on n'arrive pas à mesurer des effets très positifs en moyenne, il y en a évidemment pour certains élèves, mais rapporté au coût considérable, c'est très difficile de maintenir le redoublement si on n'arrive pas à montrer que ça a des effets très positifs. Parce que consacrer 1,5 milliard ou 2,5 milliards pour quelque chose qui a zéro effet, c'est pas forcément l'allocation la plus efficace des moyens. Donc clairement, il faut... les défenseurs du redoublement doivent démontrer que c'est un effet très positif. L'absence de corrélation, c'est très mauvais pour les défenseurs du redoublement. Il faut montrer une corrélation positive entre les résultats d'un pays et son taux de redoublement.
Et je rappelle que vous êtes économiste, hein. Guy Medford.
Non, mais c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, il y a eu plusieurs mouvements en Floride, à New York, pour revenir au redoublement. En craignant que ça stigmatise des écoles. C'est-à-dire que si on dit on ne redouble plus nulle part, et bah, tout d'un coup, l'école où plus personne ne redouble et arrive à la fin de ses études avec un niveau moyen, bah, que du coup, tout le monde se mette à éviter cette école-là.
Oui, parce qu'il y a aussi des politiques d'établissement, comme la politique de réussite au bac. Alors, on sait que les indicateurs de l'éducation nationale ne se basent plus seulement que sur la réussite au bac, mais pour les parents, ça reste important. Et orienter des élèves dans d'autres lycées ou les faire redoubler, c'est aussi se garantir une meilleure réussite. Jean-Rémy Gérard.
Oui, non, mais bien sûr, cette question-là du redoublement, une fois encore, il ne s'agit pas de dire d'être un défenseur du redoublement en disant le redoublement c'est formidable, on va faire redoubler tout le monde et voilà, on aura un super système scolaire. C'est de dire ça doit être un outil qu'on conserve pour les élèves dont on pense qu'ils en ont besoin, mais et je suis tout à fait d'accord, il faut mettre en place d'autres choses que le redoublement, c'est ce qu'on n'a pas fait, hein, une fois encore. Nous, pour le coup, en tant que syndicat, on essaye de proposer des alternatives au redoublement, on essaye de faire ces choses-là. Ensuite, les politiques qui sont menées à l'éducation nationale par rapport aux orientations et aux réputations, c'est catastrophique et horriblement contre-productif. On se retrouve à dire la voie professionnelle est une voie de réussite et en même temps, on juge de la qualité d'un collègue sur son taux de passage en seconde générale. Donc vous imaginez bien qu'à l'arrivée, on a quand même un petit souci avec la perception de la voie professionnelle en France.
Ah, le double discours, on pourrait faire des émissions là-dessus également, Jean-Rémy Girard. Mais Libby Cousteau a une question pour vous. Libby, je rappelle que vous êtes grand reporter ou grande reporter, comment on dit à l'Express ?
Comme vous voulez, je crois qu'on dit grand, mais on peut dire grande aussi, je veux bien être les deux.
Alors vous avez une question pour Jean-Rémy Girard, une petite remarque.
Voilà, par-delà ce passionnant débat sur le redoublement, je voulais profiter de votre présence pour vous poser une question. Bon, le redoublement, ça n'est pas la panacée, proclamait votre syndicat, le SNALC, donc il y a quelques mois. Et pourtant, aujourd'hui, vous vous déclarez contre la suppression du redoublement, si j'ai bien compris. De même, au SNALC, vous êtes contre la suppression du brevet des collèges dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est inutile, coûteux, en temps et en argent. Contre aussi la remise à plat de l'évaluation des élèves. On est vraiment en train de s'attaquer à des problèmes qui n'en sont pas, avez-vous écrit à ce propos, concernant une hypothétique suppression des notes. Vous êtes contre aussi l'idée de donner plus d'autonomie aux établissements, autonomie qui, selon certains, pourrait compenser les fortes inégalités dont on parlait tout à l'heure du système scolaire français. Bref, je ne vais pas faire la liste exhaustive ici de vos oppositions, de vos contres, ça n'est pas mon but. Simplement, comme beaucoup d'observateurs, je m'interroge sur votre rôle et à travers lui, plus généralement, sur celui des syndicats de l'éducation nationale en général. Des syndicats craints par les politiques, des syndicats souvent perçus comme une force d'opposition systématique à toute évolution, en somme des forces conservatrices.
Non mais Libby, les syndicats, ils font aussi des propositions, on les entend ici à Rue des Écoles.
Oui, ma vision peut sembler et va vous sembler réductrice, voire caricaturale. Et il ne m'a pas échappé d'ailleurs, je m'adresse toujours à Jean-Rémy Gérard, que vous avez présenté la semaine dernière votre lycée idéal, le lycée des Savoirs. Mais bon, je me permets d'insister, quand on regarde par exemple les dossiers sur lesquels vous êtes monté au créneau l'an dernier, les salaires octroyés aux profs de prépa, la préservation des congés des enseignants en refusant l'avancée de la pré-rentrée, cela donne quand même le sentiment que votre principale, votre véritable préoccupation, c'est de protéger les intérêts de vos adhérents avec le corporatisme comme seul horizon. Alors ma question arrive. Certes, protéger les intérêts de vos adhérents, cela fait partie de votre rôle d'élu, la représentation, mais cette défense des intérêts s'apparente trop souvent à la défense de l'immobilisme. Or, l'école est en crise, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus autour de cette table, elle doit se remettre en question. Et donc, je voulais vous lancer un défi. Quand les syndicats sortiront-ils de leur querelle de chapelle, de leur jeu de rôle républicain contre pédago? On en a un petit peu entendu quelques extraits aujourd'hui. Syndicats du primaire contre ceux du secondaire pour reconstruire l'école de la République à laquelle vous tenez tant. Allez-y.
Oula.
Allez, Jean-Rémy Gérard.
Vaste programme. Alors, tout d'abord, je pense qu'un syndicat, c'est sa définition, hein, c'est défendre les intérêts matériels et moraux des personnels. Si on ne le faisait pas, on nous le reprocherait parce que c'est le rôle, c'est la raison d'être de départ d'un syndicat. Maintenant, le SNALC, puisque tous les syndicats de l'éducation nationale ne sont pas pareils, le SNALC est un syndicat qui cherche à valoriser les personnels, qui cherche à les protéger, mais qui cherche aussi à inventer dans le système éducatif. Et de ce point de vue-là, nous qui ne sommes pas en faisant des querelles de premier, second degré, puisque nous syndiquons les professeurs du premier comme du second degré, et on essaye de faire qu'ils s'entendent bien, et ils s'entendent très bien, il n'y a aucun souci, nous sommes le seul syndicat à avoir proposé un projet complet de réforme du collège, complet, du début à la fin, comment ça marche, etc., comment ça fonctionne, et un projet de réforme complet des trois voies du lycée. Aucun autre n'a fait ça. Alors, moi, je veux bien qu'on parle de l'immobilisme des syndicats, mais qu'on ne parle pas d'une autre. Nous, on a nos propositions et elles sont sur la table. Elles seront sur la table de la Direction générale de l'enseignement scolaire le 1er octobre. Elles seront sur la table de la ministre mi-octobre. Et effectivement, nous, on propose, nous, on a des idées, nous, on a envie de faire avancer. On se rend bien compte qu'on est dans l'impasse.
Alors, c'est super, le syndicalisme enseignant, formidable SNALC. Je pense que le SNES aurait fait exactement la même réponse que vous, Jean-Rémy Girard.
Mais eux, ils n'ont pas de projet.
On les laissera répondre, ils peuvent publier leur tweet dès maintenant. Quand même, on voit bien, elle l'a dit, Libby, vous faites des propositions du type le redoublement, c'est peut-être une pratique qu'il faut dépasser. Mais le jour où on dit que le redoublement va être limité, vous criez à rose sur la ministre en place ou le ministre. Là, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Europe 1 a fait cette annonce. Najat Vallaud-Belkacem a publié un démenti dont peut-être vous allez vous satisfaire. Vous étiez d'ailleurs vous-même ce matin sur Europe 1. Donc maintenant, on a eu un communiqué de l'UMP aussi. Le problème s'est cristallisé de manière politique et syndicale. Et finalement, on n'a pas avancé d'un iota sur la vraie question. Il y a trop de redoublements en France, ou du moins, on n'a pas de solution alternative. Et vous venez de le dire dans cette émission.
Mais il y a 30 ans que le problème est cristallisé, une fois encore, de cette question du redoublement. La question, ce n'est pas de dire on monte au créneau sur le redoublement. La question est de dire on veut supprimer cet outil-là, mais on n'en met aucun autre en place. C'est juste ça qu'on est en train de dire. Nous, mettons en place d'autres choses, on a des projets, essayons-les. Nous, on est en train d'expérimenter notre collège dans un établissement à Poitiers, par exemple. Pour l'instant, ça a l'air de marcher très bien. Voilà. Et là, peut-être que le redoublement, il va baisser. Nous, on pense que ça va plutôt fonctionner dans ce sens-là. On ne va pas supprimer le redoublement et dire ensuite, on va faire des choses. Là, c'est ce que ça va faire. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous annoncer, c'est on supprime le redoublement. Les élèves en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie dans la classe supérieure et on fait rien pour eux.
Mais sur ce sujet, la crispation sur des questions, on va prendre un autre exemple, les rythmes scolaires. On a eu l'occasion d'en parler maintes fois, mais depuis des années, dans Rue des Écoles, il y avait quand même un consensus relatif sur le fait qu'il fallait modifier ces rythmes en France. Quand on tente de le faire, la réponse, elle est purement politique, c'est-à-dire non, le gouvernement manipule nos enfants. Enfin, je parle des réponses politiques, syndicales également, parce que les enseignants ont exprimé leur mécontentement, et je parle aussi de l'autre syndicat, le SNUIPP, l'autre syndicat très représenté. Il y a aussi l'UNSA, mais lui, ils étaient plutôt pour être complète. Donc, on voit bien que quand les politiques commence une action, ce qu'on voit, c'est des tensions, des combats qui dépassent un petit peu les débats qu'on a pu avoir de manière préliminaire et qui étaient beaucoup plus constructifs.
Oui, mais alors, cette question des rythmes scolaires, une fois encore, on était à 4,5 jours avant 2008. D'un seul coup, on a dit, tiens, on va passer à 4 jours. Et alors, il y avait des tas de gens qui étaient pour. C'était formidable à cette époque-là. Donc, on est passé à 4 jours. Là, ah ben non, il faut repasser à 4,5 jours. Au passage, on a supprimé 2 heures de cours par semaine, hein, quand même, aux élèves, entre les 4,5 jours d'avant 2008 et les 4,5 jours d'aujourd'hui. On les a pas remis avec les 4,5 jours. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a créé, ce sont des trous, donc, dans l'emploi du temps. Et on se dit, bah maintenant, il va falloir les combler. On va mettre en place des activités. Génial. Sauf qu'il y a des tas d'endroits où on est incapable de les mettre en place. C'est ça aussi. C'est qu'ensuite, on se retrouve dans des situations qu'on n'a pas anticipées parce que, enfin, on n'a pas réfléchi à ce que ça allait donner dans une école de campagne, la réforme des rythmes scolaires. Et alors, il y a des tas d'endroits où, en fait, c'est garderie, préau. Voilà.
Francesco Avisati, l'OCDE pointe souvent l'incapacité française à faire consensus autour de la question scolaire. Est-ce que vous pensez qu'en l'occurrence, des blocages politiques peuvent même sur une question qui est relativement minime, comme celle du redoublement, pour revenir à notre sujet du jour, bloquer une possible évolution ?
Moi, je voudrais revenir sur l'expression de cristalliser sur la question du redoublement, parce que la France, elle n'est pas immobile, en fait. Elle a vraiment connu un des taux de chute du redoublement les plus forts dans l'OCDE. Donc, ça montre bien que sur le terrain, en fait, ça change et qu'on est en train de mettre en place des solutions, alors que ce soit par la volonté, la bonne volonté des établissements, par des orientations politiques. Donc, en fait, c'est pas que par les textes de loi que les choses changent. Et parfois, le changement, il est en train de s'opérer alors même qu'on en parle et qu'on croit tout figé. Donc, le fait qu'on pense qu'on doit continuer à faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est pas forcément vrai. Je pense pas que la France soit le pays le plus immobile. En fait, le redoublement, c'est un bon exemple de ça.
On terminera sur ces paroles et on passe à la dernière partie de l'émission.
France Culture, rue des Écoles, Grand Amphi.
Najat Vallaud-Belkacem et Geneviève Fiorazzo, qui étaient invitées du journal de la mi-journée sur France Culture, lancent aujourd'hui la rentrée universitaire. Alors, nous avons fait toute une émission à Paris 7, à l'UPMC, il y a 2 semaines sur le sujet. Vous pouvez la réécouter en ligne. Et dans Grand Amphi, aujourd'hui, nous avons décidé de revenir sur la polémique universitaire de la semaine. Le secrétaire général du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, est accusé par Laurent Mauduit, journaliste à Mediapart, d'usurpation de diplôme. Jean-Christophe Cambadélis s'en est d'ailleurs défendu à la télévision dimanche.
Alors la licence, il y a une dispense pour pouvoir aller à l'inscription en DEA, mais puisque Mediapart s'acharne, voilà le DEA.
Les phénomènes sociaux sous la Ve République.
D'où la confusion sur ma thèse. Et puis, puisque Mediapart ne sera pas content encore, on va donner le récépissé du V. Je mets d'ailleurs au défi tous les étudiants ayant passé des examens de les avoir, mais moi je les ai gardés. Les voilà, avec les attestations, les notes et tout le reste. Donc c'est la dernière fois. J'avais eu très bien, je crois.
C'était dans C'est politique de Caroline Roux sur France 5 dimanche donc. Sans rentrer dans la polémique et sans vous mettre au défi de produire vos diplômes, Marie-Caroline Missire, aujourd'hui nous voulons savoir en fait ce que représente en France, ce pays qui sacralise tant les titres, la fraude aux diplômes.
Oui, exactement. Alors, précisons quand même que l'université Paris 7 que nous avions conviée sur ce plateau, mais qui a décliné l'invitation, a publié un démenti depuis, et que Jean-Christophe Cambadélis, vous l'avez compris, crie au complot et a produit ce qu'il présente comme les originaux de ses diplômes. Alors, pour revenir sur cette affaire, sans trancher la vérité du dossier, j'ai convié Emmanuel Chomara, qui a créé en 2000 la société Vérif Diploma. Il a fait de son métier la traque aux fraudeurs, une société qui certifie pour les entreprises la véracité des titres universitaires. Emmanuel Chomara, bonjour.
Bonjour.
Alors d'abord, que pensez-vous de cette affaire Cambadélis et des preuves qui ont été apportées par le premier secrétaire du PS ? Est-ce qu'elles vous semblent solides ?
Alors nous, en fait, on travaille dans le domaine du recrutement et en fait, on valide effectivement les titres qui sont indiqués dans un CV.
Alors, justement, il produit des attestations de diplôme. Il ne produit pas le diplôme pour vous, c'est crédible?
Alors, nous, pour avoir attesté des diplômes, il faut que la personne nous ait dit exactement quel diplôme il a eu, qu'on ait son parcours. Donc là, on est dans un cadre universitaire. Donc, il y a un DEUG, il y a une licence, il y a une maîtrise, il y a un DEA, il y a un DSS, il y a un doctorat. Et donc, c'est à partir de la production des titres de la personne qu'on va pouvoir contrôler, effectivement, si c'est vrai ou faux.
Et alors, vous en avez beaucoup, des personnes qui produisent des dispenses de licence ou de maîtrise? Alors, ça arrive fréquemment?
Ça, on ne connaît pas. Nous, on connaît surtout les faux documents. Donc là, par exemple, ce matin, on a eu un faux diplôme d'un master d'une grande université française. Ben voilà, il nous avait donné le certificat d'entreprise. Mais
et ça ressemblait à un vrai diplôme?
Ah oui, ça ressemble à un vrai diplôme.
Techniquement, visuellement?
Ah oui. Enfin, visuellement, oui, j'aurais pu vous le donner, mais c'est comme tout le monde. Hein. On a des titres avec la République française, avec les signatures de la présidence de l'université, des directeurs, de la personne. Sur le moment, comme ça, vous ne pouvez pas voir. Nous qui avons l'habitude, effectivement, des titres, comme effectivement la personne a changé quelques éléments, on va vite rapidement s'apercevoir que celui-là, pour nous, il ne va pas être bon. Mais ça ne sera que l'université qui va effectivement attester que c'est vrai ou faux, quoi.
D'accord. Et dans le cas de l'université Paris 7, elle n'a pas essayé de vous contacter sur cette affaire, par hasard?
Nous, on les a contactés parce qu'en fait, on est en partenariat avec tout l'enseignement supérieur. En fait, nous venons, alors en plus, moi je viens de l'université, donc je défends énormément effectivement la pédagogie de l'université, quoi. Et donc la société, en fait, est là pour montrer que la pédagogie, ça sert à quelque chose, ça permet d'acquérir des compétences, et c'est ces compétences-là qu'on veut faire comprendre à l'entreprise, quoi. Donc nous, on n'est pas pour le diplôme, on est là pour montrer que la pédagogie, ça donne des compétences, ça me permet d'exercer un métier, quoi.
Qu'est-ce que coûte à une université une fraude de ces diplômes?
En termes d'image, en termes de réputation.
Peu
aujourd'hui. Aujourd'hui, le phénomène n'est pas encore très présent en France. À l'étranger, il s'en occupe beaucoup. En France, aujourd'hui, on est toujours sur ce débat où effectivement le diplôme est très important. Mais d'un autre côté, quand on recrute quelqu'un et qu'on dit qu'on fait attention à ses diplômes, on dit que c'est totalement stupide. Et qu'est-ce qui compte, c'est les compétences de la personne. Donc tout d'un coup, on se dit, la pédagogie, ça ne sert à rien, puisque finalement, ce n'est pas le diplôme qui compte, c'est l'expérience de la personne.
Oui, c'est paradoxal.
Bon, à un moment, c'est paradoxal. Donc à un moment, il y a des pédagogies qu'on met en place, qui servent à avoir des compétences, et ça donne des titres. Il ne faut pas que ces titres, on puisse les usurper. Effectivement, ça en va de l'image de tous ces titres, de tous ces établissements. Donc nous, on est là pour défendre l'établissement, l'enseignement supérieur, et que ça a une validité. Et on ne veut pas que les gens puissent usurper les titres.
Et combien de fraudeurs vous épinglez dans l'année?
Nous,
qu'est-ce
tous
que
les
ça
jours.
Représente en France?
En fait, aujourd'hui, le phénomène, alors sur le en fait, ce qui se passe, et donc peut-être que cette affaire le montre bien, c'est qu'effectivement, on a environ 25% de problèmes sur les diplômes dans un CV.
De problème, quel type de problème?
Alors c'est ça, c'est qu'il faut... Non, 25% où en fait l'information est inexacte. On ne comprend pas très bien, parce que les gens, soit ils ont été vite, soit volontaires, soit involontairement, et donc on n'a été pas très précis sur son parcours.
Par exemple, qu'on a fréquenté Sciences Po sans avoir le diplôme.
Il y a
plein
de choses.
Ça concerne beaucoup d'hommes politiques, vous savez.
Ou en fait, nous, par exemple, effectivement, on veut aussi dans les titres savoir quelle date, effectivement, est-ce qu'il a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà, en fait, c'est le parcours de la personne, comment j'ai fait, et je donne exactement son cursus pédagogique, quoi. Et donc, effectivement, dans les 25% qu'on a, la moitié, en fait, c'est à un moment des informations qui ne sont pas exactes. Donc, celle-là, par exemple, j'étais présent à Sciences Po, mais je n'ai pas eu le titre, parce qu'effectivement, en plus, Sciences Po, le diplôme, le grand jury était quand même à la fin de l'école, contrairement à la plupart des grandes écoles, où c'est souvent à l'entrée que se fait surtout la sélection, quoi. Donc, mais en fait, après, dans un quart des cas, vous avez quand même du faux document, donc c'est celui que je vous ai présenté, et dans un quart des cas, où la personne a passé, mais n'a pas eu le titre, quoi.
Et alors, voilà. Justement, vous soulignez l'aspect paradoxal du cas français, puisqu'on est très attaché au diplôme et au titre, on l'a dit au début de cette séquence. En Allemagne, par exemple, une ministre qui était dans un cas similaire à celui de Jean-Christophe Cambadélis a aussitôt démissionné. Ça ne produit pas les mêmes effets dans le cadre français.
En fait, aujourd'hui, en France, ce n'est pas encore la culture. Effectivement, on laisse usurper les titres, on laisse ce phénomène. On dit que c'est bon, voilà, la tricherie, c'est bien, on l'a tous fait. Et on regardez tous les débats qu'il y a souvent là-dessus. Souvent, les gens disent, c'est une bonne tricherie. Ça, aujourd'hui, c'est difficile, c'est la crise, donc ce n'est pas normal. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit aux 2 millions d'étudiants, quoi?
Exactement.
Qu'est-ce qu'on dit aux 2 millions d'étudiants? Ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire une bonne petite triche et ça passe comme au jeu de cartes.
Et comment les universités peuvent-elles s'en prémunir? Peut-être qu'elles vous demandent des conseils là-dessus.
Et aujourd'hui, effectivement, c'est difficile. Dans la mondialisation, alors c'est pour ça qu'à l'étranger, le phénomène de la vérification s'est beaucoup développé. Vous avez beaucoup de sociétés très, très développées là-dessus. En France, il n'y a quasiment pas de sociétés. On est la seule société aujourd'hui présente sur ce phénomène, quoi. Mais demain, il va bien falloir qu'effectivement, on prenne des mesures pour éviter d'usurper les titres.
Quel type de mesures?
Et bien justement, passer par des sociétés comme nous, enfin, oui. Moi, qui a un système qui existe.
Un marché florissant, hein, on a fait connaître aujourd'hui. Combien ça coûte de faire vérifier les diplômes de quelqu'un qu'on voudrait embaucher, par exemple?
Nous, c'est 30 euros pour vérifier un diplôme, quoi. Voilà. C'est simple.
Au moins, on a le prix.
Voilà.
Et est-ce que ça vous est déjà
arrivé?
En
France, à l'étranger, dans n'importe quel diplôme, quoi.
Qu'une entreprise recrute quand même un candidat, même si vous aviez fait la preuve qu'il avait fraudé?
Eh bien non, parce que là, justement, on dit que les diplômes, c'est pas important, c'est les compétences de la personne, son expérience. Par contre, confronté à la réalité, tout d'un coup, on me dit la personne que j'avais en face de moi, finalement, son tuite est usurpée. Mais dans ces cas-là, vous avez du mal à mettre le dossier de le même côté. Hein. C'est un problème de fiabilité. Donc, à un moment, c'est pas un problème d'expérience, de fiabilité. Donc, est-ce que je fais confiance ou pas? Sur ce cas-là, à chaque fois, le dossier est mis de côté.
Eh bien, message reçu pour les étudiants et les apprentis fraudeurs. Merci
beaucoup.
Et donc,
Emmanuel Choumara, si je vous donne 30 euros, vous pouvez retrouver mon DEA.
Oui, et c'est uniquement pour des professionnels des ressources humaines. Quoi.
France Culture Plus.
Toutes les semaines, Grand Amphi vous présente le meilleur et le plus singulier des programmes de France Culture Plus, le web campus de France Culture. Focus cet après-midi sur Le Monde est un campus, un programme consacré aux étudiants étrangers. Aujourd'hui, rencontre avec David Rodriguez, peintre pornographe. Oui, vous avez bien entendu pornographe. Il a fait ses études à l'ENSA de Nancy et à la Sorbonne. Ses maîtres sont Pierre Molinier et Pierre Louis.
La question de la sexualité en Colombie, pour moi, ça a été toujours quelque chose qui était de l'ordre de l'interdit, quoi. C'est du tabou, quelque part. C'est aidé par une éducation religieuse et d'une famille plutôt conservatrice à ces sujets-là. Donc, finalement, disons, étant né dans la génération qui a un peu grandi avec l'évolution d'Internet, et évidemment dans une école des garçons, à un moment donné, la question aussi de comment on aborde les femmes et les filles, la curiosité pour les filles, évidemment, ça se pose. Et puis, très vite, finalement, Internet. Avec juste quelques tournements des mots, on arrivait à trouver des images pornographiques assez facilement.
À écouter donc sur France Culture Plus. Merci à tous nos invités aujourd'hui. Merci à l'équipe de Rue des Écoles, Marie-Caroline Missire et Libby Cousteau. On se retrouve la semaine prochaine dans Rue des Écoles à 15h pour évoquer la vie des jeunes chercheurs entre précarité, chômage, mais aussi mouvements comme Science en Marche qui appellent les chercheurs donc à converger vers Paris à pied, mais aussi à vélo le 17 octobre.